Nous avons parlé dans notre précédent rendez-vous de l'amour du prochain, cette exigence qui est là présente dès le don de la loi à Moïse et que Jésus reprend. Et nous avons vu concrètement en quoi nous pouvions peut-être entrer dans cette dimension de l'amour du prochain. Mais nous avons constaté que cela n'est pas facile du tout. Pourquoi ? Parce que la société fait que l'éducation que nous avons reçue à la maison ou à l'école peuvent également nous pousser dans le sens d'un individualisme. Aujourd'hui, c'est tellement évident que la société nous pousse à cet individualisme. Chacun pour soi. Tu dois être le meilleur. Tu dois gagner. Tu dois passer devant l'autre. Et tu dois remporter les combats. Tu dois tirer ton épingle du jeu. Dans ce contexte-là, l'autre est un adversaire, un concurrent. Comment poser sur un adversaire ou un concurrent un regard d'amour? Si je ne cesse de voir en lui quelqu'un qui peut-être va me faire de l'ombre, peut-être va gagner à ma place, peut-être m'écrasera alors que moi je voulais l'écraser. L'amour du prochain est quelque chose de très difficile, j'allais presque dire héroïque, mais en tout cas très difficile. Et Jésus le sait. Mais en même temps, il nous dit, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle chose extraordinaire faites-vous? Tout le monde fait cela. Mais si vous êtes les fils du Père, les fils du Dieu d'amour, qui aime chacun du même amour, alors vous devez aussi aimer vos ennemis. Nous pouvons transcrire dans le langage d'aujourd'hui, aimer vos concurrents, aimer ceux qui veulent gratter votre place, aimer ceux qui vous font de l'ombre, aimer ceux qui vous combattent pour telle ou telle raison. Et nous parlions dans notre précédent rendez-vous de cette parole de Jésus qui lie, dans la réponse qu'il fait au scribe, les deux commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Terrible exigence. Mais voilà que Jésus va en rajouter une couche. Et il dira à ses disciples, non plus aimez vos prochains comme vous-même, mais aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et je dirais, c'est encore pire, c'est encore plus difficile d'aimer les autres comme Jésus nous a aimés. Comment Jésus nous a-t-il aimés? En donnant tout pour nous, en donnant sa vie pour nous, en ne gardant pas, comme dit Paul, jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais en venant vivre au milieu de nous, jusqu'à sa passion, jusqu'à sa crucifixion, pour venir nous chercher. Il a tout donné pour nous. Et il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est très concret, puisque nous savons et nous voyons comment Jésus nous a aimés, dans le détail même. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas d'idée, comment faire, on ne sait pas faire. Nous avons le chemin, nous avons un modèle, en quelque sorte, qui nous a été donné. Et là, j'avoue que, à mon avis, aimer les autres comme Jésus nous a aimés est quasi impossible. Parce que je ne suis pas Jésus, parce que je ne suis pas le Dieu d'amour, parce que je suis envahi par toutes sortes de faiblesses, de pauvretés, de limites. Et comment pourrais-je faire pour aimer comme Jésus aime? Alors, si ça m'est impossible, la seule issue, c'est que Jésus lui-même vienne aimer en moi, à travers moi. Sinon, ce ne sera pas possible. Et je pense que, justement, c'est cela qu'il désire faire. Si nous l'y invitons, si nous sommes prêts à lui ouvrir la porte, il va venir susciter, faire grandir l'amour en nous pour les autres. Il aimera les autres à travers nous. Encore une fois, à mes yeux, c'est la seule solution pour que nous puissions mettre en œuvre ce commandement d'amour donné par Jésus.
Pâquerette, Étienne Dallaire.
Il est une autre dimension qui est très importante dans ces démarches que nous avons évoquées. Nous avons parlé de la patience, certes, qui est un signe d'amour, mais également, il nous faut souligner le rôle de l'espérance. Rien n'est impossible à Dieu. Même si la réconciliation que nous attendions ne s'est pas produite aussi rapidement, peut-être que nous l'aurions souhaité, même si celui avec qui j'ai du mal dans la relation conserve un défaut qui continue à m'agacer, j'espère qu'un jour viendra où ce défaut disparaîtra, où cette friture sur la ligne cessera. L'amour espère tout, nous dit Paul. Dans le royaume de Dieu, les loups et les chacals peuvent devenir des agneaux. Dans le royaume de Dieu, Isaïe nous dit « le loup habitera avec l'agneau ». Elle est formidable, cette parole. Parce que le loup et l'agneau, justement, sont des ennemis. Parce que l'agneau est la nourriture du loup. Il est la victime toute désignée, et cela de manière naturelle. Donc tout les oppose. Et pourtant, quand Dieu s'en mêle, quand il instaure son royaume de paix et d'amour, le loup habite avec l'agneau, sous-entendu. Il ne le mange plus. Il vit avec. Eh bien, dans nos conflits, nous pouvons espérer que Dieu s'immisce dans cette difficulté et que peu à peu, il la transforme au point où le loup habitera avec l'agneau. Dans la société, vous savez, c'est comme cela que les choses se passent. Il y a d'un côté les loups, de l'autre côté les agneaux. Et certains ont pour vocation de manger les autres. Et les autres ont pour vocation d'être mangés par les uns. C'est comme cela que ça se passe. Eh bien, avec l'intervention de Dieu, les choses peuvent changer. Alors, elles peuvent changer. Nous parlons aujourd'hui de nos relations personnelles et non pas des conflits sociaux, de groupes qui s'opposent, mais on pourrait étendre effectivement la réflexion de manière plus globale. Nous avons à espérer. La charité dont parle Paul dans la première aux Corinthiens, et qui est fondamentalement l'amour en œuvre, c'est cela la charité, l'amour au nom de Dieu qui est amour, elle nous fait espérer toute chose. La charité doit être patiente, nous l'avons vu, et elle doit, si je reprends les termes de 1 Corinthiens 13, tout excuser. Et permettez-moi de mettre en doute cette traduction, car excuser n'est pas le sens du verbe stégain en grec. Mais ce verbe signifie couvrir. Il ne s'agit pas d'excuser, de s'aveugler sur les défauts de ses proches, ni sur les nôtres d'ailleurs, mais de les couvrir, de les recouvrir, de tout ce qu'il y a de beau en eux et en moi, et surtout de les couvrir de la miséricorde de Dieu. Ces défauts n'ont pas disparu, ils sont toujours présents, mais grâce à cette couverture d'amour, ils ne sont plus actifs. Ils sont comme étouffés.